Le silence des petits papiers, chapitre 48. La montagne résonnait du bruit des engins. Le temps était compté. Les travaux devaient se terminer avant le 15 octobre. Un combat qui durait depuis des années trouvait ici son aboutissement. Le maire passait plusieurs fois par jour constater l'avancement des travaux. Cette liaison entre les deux villages, c'était son bébé. Il en avait fallu de la sueur et des nuits d'insomnie pour convaincre tout le monde de la nécessité d'une remontée mécanique reliant les deux versants. Il savait que la survie économique et démographique passait par ce désenclavement. Les bûcherons réalisèrent une trouée dans la forêt de sapins. Sans état d'âme, ils abattirent des arbres centenaires. Les anciens râlaient de voir cette déchirure. Leur jardin d'Éden ne ressemblait plus au paradis qu'ils avaient connu. Certains faisaient contre mauvaise fortune bon cœur, d'autres se lamentaient à longueur de journée. Sur l'autre versant, l'argent primait toute considération. L'or blanc dictait toutes les décisions, et cela depuis des décennies. Pendant le même temps, une équipe s'affairait sur la construction de la gare. Toute proportion gardée, on aurait dit un terminal d'aéroport. L'alliance de matériaux modernes dans un lieu d'ordinaire réservé aux moutons, détonnait. Des grues et des bulldozers s'affairaient dans un vacarme inhabituel. Les engins réalisaient une plateforme qui deviendrait un parking dans les semaines à venir. Une fourmilière s'agitait sur le site. Comme un balai bien ordonné, chacun savait ce qu'il avait à faire. Une équipe était mobilisée au dégagement d'une partie de l'éboulement ayant détruit la route. Une noria de camions empruntait les routes sinueuses pour évacuer la terre et les rochers vers la vallée. Le danger se trouvait à chaque virage. Les vélos et les motos empruntaient en nombre le col. Le pic de circulation se situant entre la fin juillet et les premiers jours d'août. Plusieurs accidents furent évités de justesse. Les citadins, avides de nature et de grands espaces, appréhendaient mal les risques. Ils mettaient en péril leur vie et celle des autres. Une découverte macabre plongea le chantier dans la consternation. Une pelle mécanique mit à jour un véhicule de marque Lancia immatriculé en Italie. À l'intérieur, deux cadavres gisaient, allongés côte à côte. Cette partie des travaux fut interrompue pour laisser travailler les enquêteurs. Le toit était aplati, mais le reste de l'habitacle était intact. On pouvait supposer qu'ils avaient succombé par asphyxie, une fin atroce. L'affaire fit beaucoup de bruit dans les chaumières, chacun y allant bon train de son hypothèse. Les victimes étaient des hommes, apparemment jeunes, les deux mères culpabilisées, chacun ayant affirmé, sur la foi des déclarations de leurs administrés, qu'aucun véhicule n'était prisonnier des tonnes de rochers obstruant la route. Maintenant se posait la question légitime de s'assurer qu'il n'y ait pas un autre cercueil automobile. Il restait une énorme partie de l'éboulement. Essayer de l'évacuer représentait un danger trop important. Les autorités décidèrent d'en rester là. Il arrive parfois que les morts soient plus bavards que les vivants. Ce fut le cas. Les documents retrouvés dans les poches des défunts ne laissèrent place à aucune ambiguïté. Ces deux personnages étaient connus des services de police transalpins. Originaires de la région de Naples, ils appartenaient à un clan mafieux. Les enquêteurs se demandèrent ce qu'ils trafiquaient dans le coin à cette époque. Aucun indice ne permit de déterminer le but poursuivi par ces malfrats. Les voies permettant de rejoindre l'Italie ne passaient pas par ce coin perdu de montagne. Ce point ne fut pas élucidé. Une autre trouvaille interpella le service d'enquête. Une carte routière annotée attira l'attention. Un cercle de couleur rouge entourait le secteur de l'avant-pays savoyard. Une feuille avec un plan crayonné était jointe. Aucun lieu n'était précisé. Il était presque impossible d'en déterminer l'endroit exact. Seul un journaliste bien introduit réussit à glaner des informations capitales. Gilbert Brunel était celui-là. Il percuta immédiatement lorsqu'il apprit que les victimes étaient originaires de la région napolitaine. il décida d'en toucher deux mots à son ami Jean-Christophe. Les deux hommes se parlèrent peu au téléphone. Ils évoquèrent la plastique d'Elsa. Cela rappela quelques souvenirs agréables à la rétine de l'écrivain. Rendez-vous fut pris pour le lendemain. Lorsqu'il eut raccroché, il s'empara de l'article relatant l'éboulement. Il avait lu les quelques lignes relatant la découverte. Il verrait demain si ses suppositions avaient un fondement. Cette fois, c'était Gilbert qui viendrait à lui. Il serait plus tranquille pour discuter sur cette affaire et ses ramifications. Le journaliste fut ponctuel. Il se présenta au moment où le clocher du village sonnait son 10e et dernier coup. Ils devisèrent devant un café, chacun parlant à l'autre de ses idées sur le dossier. Jean-Christophe se garda bien de parler des enveloppes, pas plus de la première que de la seconde. Il ne se sentait pas prêt à lâcher le morceau, malgré toute l'amitié qu'il avait pour son visiteur. Quand il fut question de la carte et du plan trouvé aux côtés des cadavres, Jean-Christophe demanda à son interlocuteur s'il avait une copie du feuillet. L'autre lui répondit qu'il l'avait mémorisé dans sa tête. Il pensait pouvoir lui dessiner tel qu'il l'avait eu devant les yeux. Jean-Christophe lui tendit une feuille. Gilbert prit son stylo. Deux minutes plus tard, ils se penchèrent sur le résultat. Son froncement de sourcils caractéristique prouva que le sujet l'intriguait. Gilbert prit la parole. « Ma foi, on dirait que ça vous dit quelque chose. Si vous ne vous êtes pas moqué de moi, je vais vous dire le reste. En toute amitié, cher Jean-Christophe, je ne serais pas venu jusqu'à vous pour vous rouler dans la farine. C'est entendu, Gilbert. Alors ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Je suis tout ouïe. Ces quelques traits sont le plan d'accès à la ferme d'Amédée. Je rajouterai que nos lascars ont probablement sévi dans le coin lors de l'incendie de la grange. Ensuite, ils sont partis dans la nature pour finir leur jour de manière imprévue. Comment pouvez-vous être aussi catégorique ? Mon cher Gilbert, cet endroit je le connais bien. Il faut environ 1h30 pour s'y rendre. Entre le moment de l'incendie et celui de l'éboulement, combien de temps s'est écoulé, je vous le demande. Entre 1h30 et 2h. Vous êtes diabolique. Vous auriez dû travailler pour la police. Laissons ça aux spécialistes. Ici, il n'est question que de bon sens.